Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. L'Érythrée et l'Éthiopie ont signé ce lundi à Asmara une déclaration conjointe formalisant leur rapprochement et stipulant que les deux pays ne sont plus en guerre. Ce serait annoncé aujourd'hui le ministre érythréen de l'Information, Yeman Gebremeskel. Selon M. Yeman, ce texte paraphé par le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed déclare notamment que l'état de guerre qui existait entre les deux pays est arrivé à sa fin. Une nouvelle ère de paix et d'amitié s'ouvre, a souligné Yeman Gebremeskel sur son compte Twitter. Cette déclaration conjointe intervient au lendemain de l'annonce par le Premier ministre éthiopien de la normalisation des relations de son pays avec l'Érythrée à l'issue d'une rencontre avec le président érythréen à Asmara. C'est une percée historique après 20 ans de relations chaotiques entre les deux voisins, Bagassi Koura.
Cette annonce survient après des semaines de rapprochement entre les deux pays qui ont culminé avec des drapeaux éthiopiens flottant au vent et les acclamations de la foule massée le long des rues de la capitale érythréenne pour saluer Abiy Ahmed. Nous nous sommes mis d'accord pour la reprise du trafic aérien et naval pour la circulation des personnes entre nos deux pays et la réouverture des ambassades, a déclaré Abiy Ahmed à l'issue des discussions avec le président Isaias Afwerki. Plus tôt, les deux dirigeants s'étaient déjà mis d'accord pour établir les liaisons téléphoniques internationales entre les deux pays. La télévision officielle de l'Érythrée avait montré les deux dirigeants s'étreignant à l'aéroport. Une scène inimaginable il y a encore quelques mois. Les plus hauts dirigeants des deux pays ne s'étaient pas retrouvés depuis près de 20 ans. Le sommet de dimanche fait suite à l'annonce par M. Abiy le mois dernier de la volonté de l'Éthiopie de céder à l'Érythrée un territoire frontalier disputé, un territoire que l'Éthiopie occupe toujours malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002.
À noter que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu ce lundi à Addis Abeba et qu'il devrait y rencontrer ce soir le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, selon des sources onusiennes en Éthiopie. Au Tchad, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux devant aboutir à la décrispation de la crise sociale sont bloquées. Les deux parties durcissent leur position et les perdants dans ce bras de fer sont les élèves qui doivent passer le baccalauréat édition 2018. C'est dans ce contexte de profonde division des syndicats, en effet, que le gouvernement continue d'organiser les examens et concours de fin d'année. Écoutez quelques enseignants tchadiens plutôt mécontents de la tournure que prennent les événements.
Nous sommes parents, mais il faut que les programmes soient quand même finis pour que nos enfants aient dignement leur diplôme.
Les camarades syndiqués qui sont sur le terrain, je dirais que c'était des traîtres.
C'est anormal ce que les autres ont fait. On dit solidarité, mais il n'y a pas la solidarité chez nous.
Des enseignants tchadiens. Gabon, le principal syndicat gabonais du secteur pétrolier, a lancé ce lundi un mot d'ordre de grève de 15 jours à Total Gabon après l'échec des négociations concernant les conditions salariales. La grève couvrira l'ensemble des installations où opèrent les salariés de Total Gabon, a précisé aujourd'hui un communiqué de l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP. Le groupe pétrolier français emploie quelque 300 personnes au Gabon, dont 60 expatriés, selon le secrétaire général de l'ONEP, Sylvain Mayabi. RDC, Kinshasa dit non à une délégation de haut niveau de l'ONU et de l'Union africaine. Selon un conseiller du président congolais Joseph Kabila, la visite du secrétaire général de l'ONU et du président de la commission de l'Union africaine dans le pays est inopportune en cette période préélectorale. Rappelons que lors d'une conférence de presse fin janvier, le président Kabila avait critiqué la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, en demandant qu'elle quitte le pays au plus tard en 2020. La MONUSCO, qui compte quelque 17 000 casques bleus pour un budget annuel $2,153 milliards, est l'une des plus importantes missions de la paix de l'ONU dans le monde.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, la campagne pour la présidentielle a commencé. Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, le président sortant, est candidat à sa propre succession. Et son challenger de 2013 était à Bamako à cette occasion. D'autres candidats, comme Modibo Sidibé, Ousseni Amion Guindo ou encore l'unique femme dans la course, ont donné des conférences de presse ou effectué des visites de prise de contact également dans la capitale. Compte rendu de notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est dans les quartiers populaires de Lafiabougou que l'unique femme candidate a son QG de campagne. Il n'y avait pas assez de monde le samedi 7 juillet. La candidate a dévoilé son programme de campagne qui sera lancé ce lundi 9 juillet à Kidal. Kanté Djenebandjaï, candidate.
La campagne va se passer très bien dans la transparence. Nous, les femmes, on a beaucoup compris que les femmes peuvent mieux gérer le Mali plus que les hommes. Le choix de Kidal, parce que ce sont nos femmes qui sont là-bas, qui sont victimes et qui sont là-bas, qui connaissent la réalité de là-bas. Je vais être avec eux, dormir avec eux, causer avec eux, pour qu'ils puissent être avec nous, femmes du Sud, pour conseiller leur mari, pour que la paix puisse revenir au Mali.
L'ancien rebelle, ancien député de Bourem, Mohamed Ibrahim Ag Assalé, apporte son soutien à Ousseyni Amion Guindo.
Nous sommes arrivés par conviction à la conclusion que le candidat Ousseyni Amion Guindo de la CODEM est membre de la Convention des bâtisseur et celui qui pourra rassembler les Maliens, que je déclare au nom du mouvement républicain pour la paix et l'unité et à mon nom propre notre soutien à la candidature de M. Ousseyni Amion Guindo pour accéder à la magistrature suprême de notre pays, le Mali, scrutin du 29 juillet 2010.
Les candidats de la CODEM qui a eu le soutien de l'ancien maire de Gao apprécie à sa juste valeur la décision de Ibrahim Ag Assalé, Ousseyni Amion Guindo.
Ibrahim que j'ai connu à l'Assemblée nationale en tant que député, Ibrahim qui est signataire des accords de Ouagadougou, donc c'est ce Ibrahim aujourd'hui qui pense que c'est nous qui pouvons rassembler les Maliens. Je vous dis merci. Merci pour la confiance, parce que notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, il faut rétablir la confiance entre nos populations et nos gouvernants.
Au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la mobilisation continue autour du retrait des cartes d'électeurs, car le taux de retrait national est de 14%.
Véritablement que les gens aillent retirer les cartes d'électeurs biométriques. Si quelqu'un veut voter, il doit avoir sa carte d'électeur. C'est la raison pour laquelle les OEC iront jusqu'au samedi 28. 8 juillet pour dire aux gens d'aller retirer les cartes d'électeurs.
Donner l'information à cette base pour que nous puissions avoir des élections transparentes et j'en suis sûr que vraiment cette tâche sera exécutée à souhait.
Afin d'accentuer cette sensibilisation, les femmes ont été sollicitées. Traoré Oumoutouré, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Les femmes doivent sortir, aller chercher leur carte d'électeur et aller voter. Et la plus grande chance pour les femmes d'aller prendre leur carte d'électeur et d'exercer leur citoyenneté. Elles ne peuvent pas dire qu'elles ont des conditions mauvaises, qu'elles ont tel ou tel problème sans avoir la carte. Et je pense que c'est l'occasion pour les femmes du Mali d'être ensemble en groupe et d'aller prendre leur carte d'électeur et voir les programmes qui marchent, les programmes qui parlent mieux, qui veulent renverser les tendances pour elles.
Sur le terrain, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta était dans le plus grand stade du Mali alors que son challenger de 2013, Soumaïla Cissé, avait investi le boulevard de l'indépendance. Tous les deux ont parlé de programme et sensibiliser leurs partisans afin qu'ils sortent massivement le 29 juillet prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré dimanche pendant plusieurs heures le bras droit du leader nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang. Ses pourparlers difficiles visent à préparer une feuille de route afin que la dénucléarisation de la Corée du Nord prenne forme. Le point avec Idrissa Seloudia.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a exhorté hier la Corée du Nord à suivre l'exemple du Vietnam en forgeant une nouvelle relation avec les États-Unis, tout comme l'a fait Hanoï plus de 4 décennies après la guerre du Vietnam et l'engagement militaire américain dans ce pays. M. Pompeo parlait à Hanoï à l'issue de 2 jours de pourparlers à Pyongyang sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen. Il a à ce propos minimisé les accusations de Pyongyang qui, qualifiant de regrettable ses pourparlers, a dit que les États-Unis avaient fait des demandes similaires à celles de gangsters en réclamant l'abandon de son programme nucléaire.
Et pour terminer ces nouvelles de dernière minute du Cameroun, des échanges de tirs ont été entendus ce lundi matin à Boya, le chef-lieu du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du pays, théâtre depuis fin 2017 d'un conflit entre l'armée camerounaise et des séparatistes armés. Les tirs ont cessé maintenant, selon des témoins. C'est la première fois que des échanges de tirs ont lieu dans des quartiers de la capitale du Sud-Ouest, qui est quadrillé par un grand nombre de militaires depuis le début de la crise anglophone fin 2016. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.